à maman, Florent. Donc, ce matin,
tu peux lire la fiche ?
Ah.
Ça, c'est bon ?
Oui. Donc, il est 10 heures ?
Non,
c'est 9h30. Ah, 9h30, oui. Renversé, oui. Voilà, 9h30, c'est bon.
Oui. Amen.
Bon. Donc, ce matin, ça fait un an et demi que je ne suis pas parmi vous. Donc, il y a de nouveaux visages, quelques nouveaux visages que je vois pour la première fois. Mais, en principe, je vous connais tous, n'est-ce pas ? Donc, c'est bien d'être ici encore une fois. Et bien sûr, je vous ai vu ces derniers jours, n'est-ce pas ? Beaucoup d'entre vous, vous avez assisté aux réunions pendant la journée, et d'autres qui sont ici, bon, le dimanche et aussi hier samedi, à cause du travail, vous n'avez pas pu assister aux réunions pendant la semaine. Mais c'est bien de vous voir ce matin. Et donc, c'est toujours une joie de revoir les frères et les sœurs. Et aussi de voir de nouveaux frères et de sœurs. Voilà. C'est Marie-Thérèse, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Je me souviens de vous. Amen. Amen. Donc ce matin, mon fardeau, le fardeau, c'est un mot que nous allons voir et considérer. Et ça, c'est le mot. Préparation. Ah, préparation. Hier, nous avons vu que la vie chrétienne est une vie de semence. Parce que il y a un semeur dans l'univers, un vrai semeur qui est Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu est en train de faire est de se semer. Semer lui-même en l'humanité, en nous. Donc, si vous voyez, si vous examinez votre vie chrétienne, vous allez vous rendre compte que votre vie chrétienne a commencé avec une semence. Une semence de la parole, une toute petite semence. Ce qui est intéressant avec une semence, c'est qu'elle est très 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 petite. Elle n'est pas grande. Je ne sais pas si vous avez vu une grande semence, une grosse semence. Non, elles sont toutes petites, n'est-ce pas ? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une petite semence peut produire un arbre gigantesque. N'est-ce pas ? Il y a des arbres ici en Afrique, il y a aussi des arbres en Amérique du Nord qui s'appellent, peut-être que vous en avez entendu parler, les arbres rouges, redwood, les arbres rouges, qui sont énormes et très très grands. Peut-être l'un des arbres les plus grands. Mais il commence avec une petite semence. Et donc, cette semence fragile, n'est-ce pas ? Cette semence qui risque d'être emportée par le vent. Quand le semeur sème, n'est-ce pas ? Parfois, la semence s'emporte. N'est-ce pas ? Le vent vient, ou il pleut beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de pluie. Et, n'est-ce pas ? La semence, il y a risque de ne pas pousser. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une façon ou d'une autre, la semence est capable de pousser dans des circonstances difficiles, même impossibles. N'est-ce pas? Même quand vous traversez, quand vous, vous marchez sur le trottoir, sur la rue, là, il y a de l'herbe qui pousse. N'est-ce pas? À travers les, quoi? N'est-ce pas? Les trous, il y a des petits trous dans la route, et voilà, il y a de la vie. Il y a quelque chose qui pousse. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie de la semence. La vie de la semence qui essaie de trouver un chemin. Même là où il n'y a pas de chemin, la semence peut, la vie dans la semence peut trouver, même créer un chemin. Là où il n'y en a pas. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons reçu. Nous ne croyons pas qu'elle est grande, mais elle est petite. Mais elle est puissante, cette semence. Parce que c'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, est, n'est-ce pas, est dans cette semence. Alors, chacun d'entre nous, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons besoin de rien, rien de plus. Cette semence en nous, elle a été déposée, n'est-ce pas, le jour où nous avons écouté la parole, nous avons lu la parole, Dieu nous a parlé, Dieu nous a touché, nous avons vu que le Seigneur Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, ou que nous avons vu que nous avons besoin de Jésus. Je suis pécheur, Seigneur, tu es mon sauveur. Ou ma vie est vide, était vide. Et j'avais besoin de quelque chose de plus. J'avais besoin d'être rempli, ma vie, pour que ma vie devienne significative, pleine de valeur. Ce jour-là, ou ce moment-là, la semence est entrée en nous. Et cette semence va pousser. Cette semence va croître. Et donc, selon le dessein de Dieu, Dieu obtiendra tout ce qu'il sème dans l'homme va croître tôt ou tard. Mais nous, n'est-ce pas? Et donc, Jésus-Christ, il est venu, n'est-ce pas?
Bonjour.
Dieu lui-même est venu. Et il s'est semé dans l'homme. Il s'est semé dans un homme, Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous expérimentons, Dieu l'a déjà expérimenté. N'est-ce pas? Voilà, j'aime toujours le fait que Dieu ne nous demande jamais ce qu'il n'a jamais fait. Vous voyez, tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu attend, lui, il a déjà subi, il a déjà expérimenté, il a déjà passé par tout ce qu'il nous demande. Ah. Donc, par exemple, si Dieu, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande de l'obéissance, n'est-ce pas? Lui-même, il est passé par ça. Il était obéissant au Père. Vous voyez? Donc, dans tout ce que Dieu attend de nous, il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc, Dieu sème quelque chose en nous, mais il s'est déjà semé en l'humanité. Il est devenu homme. Dieu est devenu homme. Et ça, c'était une semence. le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, Dieu glorieux, Dieu éternel, est devenu un homme fini, un homme limité dans le temps, un homme limité dans l'espace, pour vivre une vie humaine comme nous, pour montrer qu'il y a une semence qui peut croître. N'est-ce pas? Il y a une semence qui peut croître jusqu'à la gloire, jusqu'à la maturité. C'est possible. C'est possible. Parfois, nous pensons que ce n'est pas possible. Quand nous nous regardons ce que nous sommes, avec nos échecs, avec nos faiblesses, avec notre disposition, avec notre caractère, avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos situations, souvent, n'est-ce pas, nous nous levons les mains et nous disons, est-ce possible, Dieu, est-ce que je deviendrai vraiment comme toi? Est-ce que je serai comme toi? Oui, c'est un rêve, c'est quelque chose qui est idéal, mais pratiquement, est-ce que c'est possible que moi, un jour, je sois sans péché? Ben, nous sommes pécheurs. Impossible, presque impossible de concevoir le jour où il n'y aura plus de péché. Oui, théoriquement, doctrinalement, nous le savons. Mais quand je me regarde, est-ce possible que moi, un pécheur, je puisse être sans péché, je puisse être comme le Seigneur, je puisse être transformé à l'image du Seigneur? Jésus-Christ, il est passé par ces étapes, les mêmes étapes que nous passons, que nous traversons. Alors, c'est possible. C'est possible. Parce que il y a un homme qui est passé par ça. Il y a un homme qui s'est semé. Dieu qui s'est semé dans un homme. Et cet homme qui était un homme comme nous, sans péché, un homme comme nous, un homme, n'est-ce pas, sujet aux mêmes sentiments que nous, mais toujours sans péché. Mais un homme qui était faible, un homme qui avait sommeil, un homme qui était fatigué, un homme qui était limité. Cet homme vit en nous. Cette semence vit en nous. Et donc, il y a de l'espoir. Ah, pas seulement dans l'avenir, un jour, non, même aujourd'hui. Il y a une espérance vivante que cette vie en nous va croître, cette vie en nous va, n'est-ce pas, arriver à la maturité. Mais il faut quelque chose. Et ça, c'est la préparation. Vous voyez, la vie a besoin de la préparation. La vie va croître, mais la vie a besoin d'un environnement. La vie a besoin d'une ambiance. La vie a besoin des ingrédients pour qu'elle puisse croître. Et la vie de l'Église, dans la vie de l'Église, il y a tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc, quand nous croyons au Seigneur, quand nous touchons le Seigneur, la première chose, c'est de venir à la vie de l'Église. C'est pour que cette semence puisse croître. Alors, vous êtes dans le bon endroit, le bon lieu. Ne quittez pas la vie de l'Église.
Amen.
Je vous prie. Ah, c'est parce que c'est ici que vous allez croître.
Amen.
C'est ici que vous allez expérimenter quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter ailleurs. que ici, Dieu sera réel. Et Dieu va nous toucher. Ah, Dieu va toucher tout ce qui n'est pas de lui. Alors, quand la semence, n'est-ce pas, est enterrée, est semée, elle va dans la terre. Elle va dans la terre. Elle est enterrée. Ça veut dire que il y a un processus. Une semence ne peut jamais être complète. Une semence ne peut jamais être quoi ? Une semence doit être brisée. Pour que la semence puisse croître, il faut qu'elle soit brisée. Une semence entière, non touchée, ne sert à rien. Alors, quand vous avez, n'est-ce pas, quand vous voyez une semence au magasin, ou n'est-ce pas, oui, peut-être qu'elle est jolie, mais si vous ne l'enterrez pas, vous n'aurez rien. Donc, le principe de la semence, c'est qu'elle soit enterrée, qu'elle meure. Donc, dans la vie de l'Église, quel est notre destin? Quel est notre destin? Je m'excuse ce matin, de vous décevoir. Si vous attendez un message glorieux, un message de victoire, un message de bénédiction, Dieu va me bénir, Dieu va me donner ce que je n'ai pas, Dieu va me donner un bon mari, une bonne femme. Oui, Dieu vous donnera la meilleure femme. Le meilleur mari, si vous en cherchez une. Mais vous devez mourir. Bah, nous devons mourir. Ah, non, spirituellement. Si vous voulez un bon mari, vous devez être prêt à être enterré. Voyez, sinon, vous pouvez chercher de bons maris partout, n'est-ce pas? Et peut-être que vous en trouverez un. Hein? Mais ce que vous attendiez, peut-être ne sera pas celui qui vous convienne. Voilà. Mais si nous sommes prêts à nous semer, être enterrés, ça veut dire que Dieu va nous bénir, n'est-ce pas? De lui-même. C'est-à-dire que le mari ou la femme que nous cherchons, n'est-ce pas, viendra de Dieu. De Dieu lui-même. Et ce sera le meilleur choix. Pourquoi? Parce que nous serons morts. Nous sommes morts à notre choix. Nous serons morts à nos désirs. Nous serons enterrés, n'est-ce pas, comme une semence. Donc, beaucoup de chrétiens veulent quelque chose, n'est-ce pas, ils veulent bénéficier de quelque chose. Ils veulent être bénis, ils veulent profiter. Dieu, donne-moi quelque chose. Dieu, donne-moi quelque chose. Et Dieu va dire, oui, je te donnerai quelque chose, je te donnerai moi-même. Mais pour que je puisse me donner à toi, je dois toucher quelque chose en toi. Parce que toi, tu n'as pas assez d'espace. Tu n'as pas suffisamment de lieu pour que je puisse me donner à toi. Donc, chaque fois que Dieu se donne à nous, il enlève quelque chose. N'est-ce pas? Et chaque fois qu'il enlève quelque chose en nous, il se donne à nous. Ça, c'est le principe de Dieu. Même notre salut, qui est un don, n'est-ce pas? Un don gratuit. Oui, c'est un don gratuit. Nous n'avons pas œuvré, nous n'avons, n'est-ce pas, rien fait de nous-mêmes de gagner le salut. Le salut est un don. Mais même le salut, que Dieu nous donne quelque chose, il a dû enlever quelque chose de nous. Peut-être notre orgueil. Ah, il a enlevé un peu de notre orgueil. Même pour que nous puissions dire Seigneur, il a dû enlever le Seigneur en nous. N'est-ce pas? Le Seigneur, n'est-ce pas? Nous qui sommes Seigneur. Non, moi je suis mon propre Seigneur. Je n'ai pas besoin de Seigneur. Je suis indépendant, je suis autosuffisant, je peux vivre ma vie comme je veux. Et puis Dieu nous a touchés. Comme il a touché Paul. Et Paul a dit, Seigneur, ah, Dieu a enlevé quelque chose en Paul, de Paul. Pour que Paul puisse dire Seigneur, il a eu un enlèvement. Et Dieu a donné, s'est donné à Paul. Et il s'est donné à nous. Donc Dieu veut nous donner quelque chose, lui-même. Mais il va enlever quelque chose de nous. Donc, quand nous devenons croyants, peut-être ici, vous commencez à venir, vous êtes, n'est-ce pas? C'est dans l'Église, la vie de l'Église, que vous allez expérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire être semé? Qu'est-ce que ça veut dire être avec d'autres frères et sœurs qui ont tous la même semence, mais qui sont tous différents? Et pour que la semence en moi puisse croître, je dois m'attacher aux frères et aux sœurs qui ont la même semence. Pour connaître ce Christ, pour connaître ce Dieu, je dois m'attacher. Donc, ce matin, ce n'est pas une réunion, simplement une réunion chrétienne. N'est-ce pas? Vous venez à la réunion chrétienne, ou vous venez à la messe, hein, peut-être, vous venez à la messe, n'est-ce pas? Dimanche matin. Et puis vous rentrez chez vous. Et c'est fini. Jusqu'à dimanche prochain. Non. Ici, quand vous venez, c'est une vie dans laquelle vous entrez. C'est une vie de l'Église. C'est pas l'Église. Ça, c'est pas l'Église. Ça, c'est salle de classe. Une école. C'est pas qui s'appelle cours Loba. Voilà. Je m'en souviens. Voilà. Cours Loba. N'est-ce pas? Mais c'est ici un lieu de rassemblement de l'Église à Abidjan. Ça veut dire tous les chrétiens, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, pas seulement nous qui sommes ici, mais tous les croyants à Abidjan qui ont reçu la même semence que nous. Ici, c'est un lieu de rassemblement dans lequel vous entrez. Et ce matin, comme tous les dimanches matins, c'est une expression de la semence qui est en nous. de la vie de semence qui est en nous. C'est une exposition, une expression, une manifestation de cette vie de semence qui est en train de croître. Et vous touchez, si vous venez dimanche matin, vous touchez la vie de cette semence. Alors, quand vous écoutez, vous entendez les louanges et vous allez entendre, nous allons entendre d'autres, n'est-ce pas, un peu plus tard. Quand nous entendons les louanges du Seigneur, nous touchons la vie de la semence dans chaque frère et chaque sœur. Et les louanges que vous écoutez, que vous entendez le dimanche matin, sont l'expression, la manifestation des louanges pendant la semaine. Vous voyez, ça c'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, vous voyez, c'est pas l'Église seulement, c'est la vie de l'Église. Ça veut dire que l'Église, c'est pas seulement un rassemblement, c'est pas seulement là où je viens pour assister à la messe. Non, c'est, je viens pour exprimer, pour déborder ce que j'ai joui, ce que j'ai touché, ce que j'ai expérimenté pendant la semaine avec les autres frères et sœurs de la vie de semence. La jouissance de la vie de Dieu. Et ça, c'est la vie de l'Église. C'est une vie, n'est-ce pas, continuelle, une vie qui croît. Et ce que vous voyez ce matin, ce n'est qu'une expression, une manifestation. Donc, venez dimanche matin, mais soyez conscients que tous ceux que vous voyez ce matin, n'est-ce pas, ils ont une vie. Il y a une vie à la maison. Il y a une vie au service, au travail. Et que si vous êtes ouvert, vous êtes prêt à vous donner, à entrer, à vous attacher à la vie de l'Église, vous aurez beaucoup de contacts. Vous aurez beaucoup de communion avec les autres frères et sœurs pendant la semaine. N'est-ce pas? Et ça dépend, bien sûr, de votre temps, ça dépend de votre horaire, etc. Mais vous serez touchés. Vous serez, vous ne serez pas seul. Vous aurez quelqu'un, un frère ou une sœur qui va vous toucher, le résultat, c'est que votre vie d'âme, ce que vous êtes, sera touché, sera exposé. N'est-ce pas? Même dans la réunion, par exemple, vous voulez prier. Vous voulez prier. Mais il y a un autre frère qui prie d'abord. Et puis, vous voulez prier. Mais il y a une sœur qui prie. Et vous n'arrivez pas à prier. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous avez été exposé. Ah, la prière que vous voulez donner, vous devez attendre qu'un autre prie, n'est-ce pas? Qu'un autre finisse de prier. Vous voyez, dans la vie de l'Église, vous allez expérimenter beaucoup de ça. Vous voulez dire quelque chose, mais il y a un autre qui a quelque chose à dire, et vous devez attendre. Vous voyez, dans beaucoup de réunions, il y a seulement une personne qui parle, n'est-ce pas? Tout le monde écoute. Alors, c'est facile de se cacher. C'est facile de, n'est-ce pas, d'être là et d'écouter quelque chose et de rentrer chez vous et de vivre votre vie. Mais dans la vie de l'Église, cette vie de semence est très active dans tout le monde. Devrait être active, n'est-ce pas? Donc, tout le monde a quelque chose, devrait avoir quelque chose, n'est-ce pas? Une prière, un cantique, un partage, un témoignage. Vous voyez? Aha! Comment est-ce que, combien sommes-nous? Ah, nous sommes nombreux. Peut-être 60, n'est-ce pas? Comment est-ce que 60 croyants, avec la vie de semence en eux, comment est-ce qu'ils vont louer le Seigneur? Comment est-ce qu'ils vont participer? Ah, ça demande quoi? Ça demande d'être semé. Ça demande que nous renions notre vie d'âme, que nous renions ce que nous sommes pour attendre, n'est-ce pas? Pour attendre les uns les autres. Ou bien, si personne ne dit rien, hein, personne ne dit rien, personne n'appelle un cantique, personne ne prie, par exemple, pour quelques moments. Encore une fois, la vie en nous, n'est-ce pas, la vie de semence, cette vie qui est toujours active, va nous parler. Prie. Ah, exerce ton esprit. Ah, libère quelque chose. Pourquoi est-ce que tu es silencieux? Pourquoi est-ce que tu attends qu'un autre dise quelque chose? Voyez, donc, en même temps, les deux, n'est-ce pas? D'une part, parfois, nous devons attendre. D'autre part, nous devons être le premier à toucher le Seigneur, à louer le Seigneur. Ça, c'est la vie de l'Église. Ah, elle est très active, elle est très vibrante, mais ça demande un prix. Et vous allez être offensé. Vous allez être touché. Ça ne va pas vous plaire tout le temps. Pourquoi est-ce que ce frère-là, il n'a pas dit amen à mon prière, à ma prière. Cette sœur-là, elle n'a pas, quand je partageais, elle avait le visage, une mauvaise mine. Oui, nous sommes le Seigneur. Ça, c'est... On ne peut pas se cacher. Dans la vie de l'Église, c'est difficile de se cacher. Parce que on est exposé. Dès que la vie de semence croît, nous serons exposés. Nous serons touchés. Et ça, c'est, n'est-ce pas, la semence. Vivre une vie de semence. Une vie d'être semé. Mais ce matin, je voudrais continuer. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette vie de semence? Il nous faut une préparation. Et dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez Je ne sais pas si tout le monde a message 3. Il y a message 3. Ah. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ont été amenés en captivité. Si vous connaissez l'Ancien Testament un peu, vous connaissez un peu l'histoire des enfants d'Israël, ils se sont éloignés de Dieu et donc Dieu les a amenés captifs en Babylone. Ok, ça c'est pas le fardeau ce matin, donc je vous donne un peu d'histoire, mais juste pour situer le contexte. C'est pas mon fardeau de vous donner une leçon d'histoire. Mais comment est-ce que ça s'applique à nous? Donc, en captivité, il y avait beaucoup de captifs. Hein, beaucoup de captifs qui ont été amenés en captivité. Et ça, c'est un portrait de nous. Si nous nous éloignons de Dieu, si Dieu n'est pas réel, si Dieu est seulement un Dieu de dimanche matin, nous sommes en captivité. Si Dieu est un Dieu de dimanche matin, mais quand je rentre à la maison et je parle mal ou même je bats ma femme ou je fais quelque chose, n'est-ce pas, je maltraite mes enfants, je suis en captivité. Dieu n'est pas ma vie. Je peux même louer le Seigneur, je peux avoir une vie dans les réunions, mais au foyer, ma vie peut être différente. Je m'excuse, mais je suis en captivité. N'est-ce pas? Et ça, c'était la condition du peuple de Dieu. Il avait Dieu, ils adoraient Dieu, mais dans leur vie privée, dans leur réelle vie, Dieu manquait. Ils avaient la forme, la façade, mais pas la réalité. Et donc, il y avait un homme, vous le connaissez, qui s'appelle Daniel. Voilà, je m'excuse. C'est pas très visible, mais... Ah, ça c'est mieux. Ah oui. Hop. Amen, merci. Oui, Daniel, qui était aussi l'un des captifs amenés en Babylone. Ah, ah merci. Ah. N'est-ce pas? Ok, à peu près 609 avant Jésus-Christ. Et Daniel, il a écrit le livre Daniel, de Daniel, n'est-ce pas? Mais Daniel était un captif. Et il était l'un des premiers captifs. Et il était jeune. Et il était très intelligent. Il avait beaucoup de talent. Et lui et ses compagnons, les jeunes avec lui, ont été tous amenés captifs. Parce que le roi de Babylone voulait, n'est-ce pas, profiter, voulait les former pour qu'ils puissent être utiles à lui, pour son royaume, n'est-ce pas, pour avancer son royaume. Et donc Daniel a commencé sa vie, on peut dire sa vie de d'adulte en captivité. Alors, nous allons lire des versets. Daniel, hein, chapitre 1. Chapitre 1, verset 8 à 15. Daniel, chapitre 1, verset 8 à 15. Ok, est-ce que quelqu'un peut... bon, peut-être... Ok, oui, ok. Yapo, oui.
Daniel, chapitre 1, verset 8. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souviendrait point de les mains délicates du roi et par les mains qu'il voulait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souvenir.
Amen. 9. Ok. Oui. Amen.
Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, ce que mon
enseignait le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car, pourquoi, je vais dire, on vous a dit, on vous a que celui des autres gens de votre âge, vous êtes ma tête au vrai du roi.
Mm-hmm. Amen.
Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des ennemis avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria.
Amen.
Verset 12. Et vous, les serviteurs, pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Amen.
Verset 13. Ensuite, comparera nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent des feuilles de bois. Après cela, tu seras d'agir envers nous selon ce que tu pourras constater.
Amen. 14. Et 14 et 15. Tu peux lire, oui.
Et puis, le résultat, dans cette affaire, je le dis à l'époque du jour. Et au bout du jour, le visage avait meilleure apparence et était plus droit que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient le verre et tout la mémoire.
Amen. Daniel, jeune homme. Nous ne savons pas quel âge il avait. Peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans, n'est-ce pas? Hein? Encore, peut-être même encore adolescent. Il est entré dans le service du roi. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a résolu quelque chose. Et dans notre vie chrétienne, il y a une résolution. Il y a quelque chose que nous devons résoudre. Ah. Il y a une décision que nous devons faire. Si nous voulons servir, être utiles au Seigneur, si nous voulons être le témoignage du Seigneur, si nous voulons être un vase que le Seigneur peut utiliser, nous avons une résolution à faire. La vie chrétienne, le témoignage du Seigneur, ce n'est pas seulement une question de louer, une question de danser, une question de chanter, une question d'être heureux, n'est-ce pas, de frapper les mains et de jouir d'une bonne réunion et de partir, de rentrer à la maison. Ah, ça, c'était une bonne réunion. Ça, c'était quelque chose d'agréable. Oh, la vie chrétienne est agréable. Non, comme je l'ai dit avant, les réunions sont les manifestations d'une vie qu'on vit quotidiennement. Et donc, Daniel, il n'a même pas, n'est-ce pas, si moi j'étais Daniel et j'entrais dans le service du roi, du grand roi Nebuchadnezzar, voilà son nom, n'est-ce pas, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Moi, j'aurais demandé au chef des eunuques ou à qui que ce soit. Qui est ce roi? Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il est? Quel est son caractère? Est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est gentil? Comment est-ce que moi, je pourrais le servir? N'est-ce pas? Ah, c'est pareil, n'est-ce pas? Quand vous commencez à travailler pour une compagnie, n'est-ce pas? Vous avez un patron. Vous voulez savoir comment est votre patron? Comment est-il? Comment est-ce que vous pouvez être utile? Comment est-ce que vous pouvez le servir? Comment est-ce que vous voulez connaître la politique de la compagnie? Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Même si on vous donne tout de suite, n'est-ce pas, la politique de la compagnie. Hein, les règles de conduite, tout ça. Daniel n'a même pas fait ça. Il a tout de suite résolu quelque chose. De vivre sa vie d'une certaine manière. Et ça, c'est une vie de semence. Daniel s'est semé. Ah, il s'est semé. Ça veut dire qu'il a refusé d'aller avec le courant de l'âge. Le courant de l'âge, ah, tout le monde veut plaire aux gens. Tout le monde veut plaire au patron. Tout le monde veut être reconnu comme l'un des autres. Mais qui veut se séparer? Qui veut prendre position pour le Seigneur au travail? Ah, qui veut prendre position pour le Seigneur à la maison, avec les voisins, avec les camarades, à l'école? Qui est prêt à prendre position? Qui est prêt à vivre une vie de semence? Le problème, c'est que nous voulons aller être comme tout le monde, le reste du monde, n'est-ce pas? Ah, les jeunes à l'école, hein, vous voulez être, avoir des amis, n'est-ce pas? Vous voulez avoir des amis, vous voulez être populaire, vous voulez être reconnu. Alors, tout ce que mes amis font, moi, je dois le faire. Et donc, nous devenons comme le reste. Aucune différence. Mais le dimanche matin, nous venons, n'est-ce pas, avec les... Bah, je ne veux pas critiquer, mais vous pouvez regarder beaucoup de, de groupes, n'est-ce pas, et comme ça, n'est-ce pas, c'est... avec des musiques, des instruments de musique. Non, je n'ai rien contre les instruments de musique. Je les aime beaucoup. Ma fille joue de la guitare. Mon fils joue de la guitare. Et pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est fantastique. Merveilleux. Voilà. Alors, la joie, n'est-ce pas, d'entendre des louanges, c'est formidable. Mais je me demande, et là, je parle à moi-même, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est ma vie chrétienne? Est-ce que ça, c'est ma vie de, n'est-ce pas, faire comme ça le dimanche matin et le reste de la semaine, je vis ma vie comme je veux? Oui, c'est ça, c'est là où la vie chrétienne, c'est la vraie vie chrétienne. C'est quand on ne vous voit pas. C'est-à-dire, les autres frères et sœurs, parce que, n'est-ce pas, on ne vous voit pas. Mais il y a d'autres gens qui vous voient. Votre patron vous voit. Vos camarades vous voient. À la maison, vos enfants, vos parents vous voient. Ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est réel. Là, ça, c'est réel. La vie chrétienne commence là. Donc, Daniel a résolu. Qu'est-ce qu'il a résolu? De ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Oh, comment, Daniel, comment peux-tu oser faire ça? Toi, tu as été employé par le roi. N'est-ce pas? Tu es employé. Enfin, captif. Pas de choix. N'est-ce pas? Tu oses contredire ton patron. Tu oses contredire, n'est-ce pas, le roi Nebuchadnezzar. Comment peux-tu oser faire ça? Est-ce que nous osons? Est-ce que nous osons? Est-ce que même notre attitude, c'est je ne vais pas me souiller. Je vais me séparer du monde. au travail. Ah, quand mes amis, après le travail, quand ils vont sortir, n'est-ce pas, ils vont rentrer du travail, quand ils disent, eh tiens, on va s'arrêter pour prendre quelque chose. Voilà, ça c'est l'épreuve. Ça c'est l'épreuve, n'est-ce pas? On va s'arrêter pour prendre quelque chose, pour boire quelque chose. Viens! Viens! N'est-ce pas? On va s'amuser et puis on va rentrer. Tu peux rentrer à ta femme. Pas de problème. Vous voyez, c'est ça là. Toutes les louanges, tous les. N'est-ce pas? Tout ce dont nous avons joui, je vous dis, facile de sortir. Ce verre, n'est-ce pas? Ce petit verre, oh, vous ne savez pas quelle puissance ça a. Peut-être que vous dites, ah non, ça c'est pas moi. Et je remercie Dieu que c'est pas vous. N'est-ce pas? Non, c'est. Voilà, peut-être que. Oui, c'est. Ça, c'est pas mon. C'est pas ma faiblesse. Non, mais il y en a d'autres. N'est-ce pas? Je donne ça comme un exemple. N'est-ce pas? Voilà. Et. Est-ce que. Où est le Seigneur? Où est le Seigneur que nous avons loué, que nous avons, à qui nous avons chanté, à qui nous avons, n'est-ce pas, fait des consécrations? Ben il est parti, c'est vite oublié, je vous le dis, si vous ne me croyez pas, voilà, il y aura quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui va vous faire emporter, comme ça. Alors, ça, je ne ferai jamais ça, d'accord. Mais il y a autre chose que vous ferez, comme ça. Alors, Daniel a résolu de ne pas se souiller des mains du roi. Au début, tout au début. Vous voyez, il a réglé l'affaire au début. Il n'a pas attendu. Ah, je vais attendre. Je vais cerner la situation. Voilà, si, n'est-ce pas, c'est pas trop, n'est-ce pas, c'est pas trop grave. Je peux me mélanger un peu. Je peux entrer un peu, n'est-ce pas, être avec eux, participer jusqu'à un certain point. Oui, et puis je m'arrête. Voilà, n'est-ce pas? Bon, Daniel n'a pas fait ça parce que Daniel se connaissait. Quand nous disons ça, ça veut dire que nous ne nous connaissons pas. Nous pensons nous connaître. Je suis fort, je suis chrétien, j'ai le Seigneur, j'ai la Bible, j'ai la connaissance de la Bible, et donc, je peux vaincre, ça veut dire que nous ne nous connaissons pas, nous ne nous connaissons pas du tout, et c'est à ce moment-là que Satan, n'est-ce pas, a un libre chemin, un chemin libre de venir, n'est-ce pas? Si nous ne réglons pas les choses tout au début. Je suis ici, n'est-ce pas? Dans mon école, je suis pour le Seigneur. Et donc, je vais me séparer du péché. Ah, je ne vais pas parler comme les autres parlent. Les autres, n'est-ce pas, jurent, peut-être qu'ils jurent. N'est-ce pas, ils jurent. Ils utilisent un certain langage. Moi, je ne vais pas participer à ça. Bon, j'aurai toujours des amis. Non, ça ne veut pas dire que je vais me séparer de tous les camarades de ma classe. Non, je ne veux pas dire ça. Mais je me sépare de ce qui n'est pas Dieu. Ce qui est contre Dieu. Donc, le mauvais langage, il y a beaucoup de choses. Hein. L'alcool, c'est une grande tentation. Hein. Oui, les drogues, je ne sais pas si, n'est-ce pas, mais permettez-moi de toucher certaines choses ce matin. Parce que c'est vraiment... parfois, on n'en parle pas, parce que on est très spirituel, n'est-ce pas? On veut, oui, mais sans une vie, une manière de vivre, toute la spiritualité, toutes les connaissances n'ont aucune valeur. Il faut que la vraie spiritualité s'exprime dans une manière de vivre.
Amen.
Quotidienne. Comment je vis devant le Seigneur? Comment je vis ma vie devant ma famille? Comment je vis ma vie quotidienne devant mon patron, mes collègues, n'est-ce pas? Même dans la rue, n'est-ce pas, au magasin, comment je me présente, comment je parle aux gens, quelle est mon attitude, quelle est ma disposition, tout ça fait partie de la spiritualité. Ça, c'est la vraie spiritualité. Bien. Mais trop souvent, hein, on rentre à la maison et on vit sa propre vie. Donc, Daniel a résolu tout de suite. Je ne vais pas me souiller. Et le chef des eunuques, n'est-ce pas, a protesté, n'est-ce pas, il a dit, oh, tu vas, ma tête sera, n'est-ce pas, je risque de perdre ma tête. Parce que le roi, il veut une certaine mine, il veut voir une certaine apparence. Et si vous n'avez pas bonne mine, moi, j'aurai des problèmes. Alors, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que Daniel a dit? Ah, c'est très très sage, très très intéressant. Il n'a pas insisté. Il a vraiment écouté le chef des eunuques. Et il a proposé quelque chose de plus. Il a dit, ok, éprouve tes serviteurs. Donne-nous un certain régime. Et après 10 jours, tu verras. Et tu vas décider. Tu vas juger. Vous voyez? Comment il s'est séparé? La séparation, d'une part, c'était qu'il n'allait pas se souiller. Mais d'autre part, il allait changer son régime. Il y avait un changement de régime. Donc, il allait manger quoi? Des légumes et boire de l'eau. Vous voyez? Donc, il a proposé un changement de régime. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que si nous voulons nous séparer du monde, séparer de ce qui est impur, nous avons besoin d'un autre régime. Nous avons besoin de changer notre régime. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une part, de nous abstenir de, hein, de laisser tomber certaines choses. Mais d'autre part, nous avons besoin de les remplacer par quelque chose. Et ça, c'est le régime que Daniel a proposé. Ça veut dire que au travail, n'est-ce pas, au marché, quel est notre témoignage? De quoi est-ce que nous témoignons? Nous ne sommes pas seulement des gens, des chrétiens, des gens qui ne faisons pas certaines choses. Mais nous remplaçons ça par le témoignage du Seigneur. C'est-à-dire que tout le monde doit connaître que nous appartenons à quelqu'un d'autre. Si nous ne mettons pas, si nous ne rendons pas ça clair, si nous ne n'établissons pas ce fait dès le début, nous aurons des problèmes. N'est-ce pas? J'appartiens à quelqu'un d'autre. J'appartiens à un autre maître. Et j'ai le Seigneur, Jésus. Bon, ça dépend comment vous voulez le dire. Mais chacun, n'est-ce pas? Vous avez le Seigneur. Donc, la façon dont vous l'exprimez, ça va être différent. Mais le point, c'est que nous faisons savoir à tout le monde que nous sommes différents, que nous appartenons à Christ.
Amen.
Vous voyez? Donc, même de dire, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien, n'est-ce pas? Je crois au Seigneur Jésus. C'est pas une petite chose. Je ne peux pas participer à ce que vous faites parce que je suis chrétien. Hein? Où est la honte? Yes, yeah. Ah oui, c'est beaucoup ont de la honte. Oh, je suis chrétien. C'est comme si on va chuchoter. Je suis chrétien. On veut pas parce que on sera méprisé. Hein, on sera méprisé. On va se moquer de nous. Et personne ne veut, n'est-ce pas, qu'on se moque de lui. Ok, mais c'est là où ça, c'est la vie, la vraie vie. Ah, la vie de semence. La vie d'une semence n'est pas facile. Si vous voulez être enterré, vous voulez, le Seigneur Jésus était enterré. Ah, on s'est moqué de lui. Alors, si il est notre Seigneur, oh Seigneur Jésus, oh il est mon... Ok, s'il est vraiment notre Seigneur, il est notre Seigneur dans tous les aspects. Un maître, un serviteur, ne peut pas être, quoi, plus élevé que son maître. Mais nous voulons qu'il soit notre Seigneur, oui, à certains moments. Mais d'autres moments, quand ça ne nous convient pas, n'est-ce pas, il n'est pas notre Seigneur. Il est autre chose. Nous sommes notre Seigneur. Là, dans ce domaine, là, Seigneur, je m'excuse, mais je vais te mettre ici. Moi, j'ai ma vie avec mes camarades. Ah, je ne peux pas le sacrifier. Ah, alors, je ne peux pas leur dire que je t'appartiens. Alors, je vais attendre. Après, n'est-ce pas, après la soirée, après la fête, avec mes amis, je redeviendrai chrétien. Voilà, oui, c'est ça. Tu redeviendras mon maître. Mon Seigneur. Mais pour le moment, je m'excuse, Seigneur, mais voilà, ça c'est nous. Ça c'est moi. Ah. Est-ce que nous sommes prêts à remplacer notre régime, à témoigner, à dans notre vie quotidienne que nous appartenons au Seigneur? Ça sera notre salut. Et Daniel, ça a été le salut de Daniel. Daniel a, il a cru, il a avancé. Il a, avec sa résolution, cette résolution, il a déterminé la course de son chemin. La course de son chemin a été déterminée. C'était une question de vie ou de mort pour lui. S'il n'avait pas réglé l'affaire à ce moment-là, sa vie aurait pu être différente. Donc, frères et sœurs, réglons l'affaire tout de suite. Seigneur, ne jouons pas avec la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est pas quelque chose que nous pouvons récupérer, n'est-ce pas, à un certain moment, la remettre à un autre moment, la récupérer. Non, la vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. Comment je fais des décisions? Comment j'exerce mes choix va déterminer le reste de ma vie. Daniel, il avait ce sentiment, cette réalisation. Pour être utile au Seigneur, il devait résoudre ça. Sinon, sa vie aurait été terminée. Et ça aussi, c'est pour nous aussi. Si nous ne réglons pas certaines choses au début, ça va être très très difficile pour le Seigneur de nous utiliser. Et vous dites, oh, on peut toujours revenir au Seigneur. Le Seigneur est toujours là. Moi, j'ai entendu ça. N'est-ce pas? Beaucoup de jeunes, beaucoup de. Voyons, le Seigneur est toujours miséricordieux. Il est toujours là. On peut toujours revenir à lui. Et c'est vrai. Oui, on ne peut pas le nier. C'est vrai. C'est vrai. Mais ne comptez pas sur le fait que vous allez revenir au Seigneur. Oh, je peux revenir au Seigneur n'importe quand. Non, c'est pas tellement facile. C'est pas tellement facile. Si vous revenez au Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur. Mais ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. Oh, je vais revenir après, n'est-ce pas? Je vais revenir. Ah, Salomon n'est pas revenu au Seigneur. Salomon, on a parlé de lui il y a quelques jours. L'homme le plus sage, l'homme qui connaissait le Seigneur, il n'est pas revenu. N'est-ce pas? Peut-être qu'il a pensé qu'il aurait pu revenir. Mais c'est pas tellement facile. Donc, Joseph, vous vous souvenez de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il a réglé l'affaire au début. C'est-à-dire que dès qu'il a vu un signe ou une manifestation de quelque chose d'impur, il a fui. Il a fui. Il a fui la tentation. Même il a refusé de rester dans la situation. Alors, ne pensez pas que vous avez la capacité de vaincre, n'est-ce pas, la convoitise. Mais, non, nous n'avons pas la capacité. Nous ne pouvons même pas nous fier à notre capacité. Par contre, il faut fuir. Fuyez. Hein, Paul dit, fuyez les convoitises de la jeunesse. Ça veut dire, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. C'est parce que être restauré de ça, ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va endommager notre vie chrétienne. Donc, tout ça pour dire que nous avons un choix, n'est-ce pas? Nous avons un choix. D'une part, à vrai dire, on n'a pas vraiment de choix. Il n'y a qu'un seul choix, et ça c'est Dieu. Mais c'est facile de dire, je choisis Dieu. Mais quand nous disons, je choisis Dieu, ça veut dire que je dois faire quelque chose. Je dois me séparer de ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez, comme j'ai dit avant, Dieu veut se donner à nous. Mais pour qu'il puisse se donner à nous, il doit enlever quelque chose. Mais comment est-ce qu'il va enlever quelque chose si nous ne collaborons pas avec lui, si nous ne lui donnons pas le terrain? Daniel a fait le premier pas. Ah. La Bible ne dit même pas qu'il a prié. Oui. Est-ce qu'il a prié? Je suppose qu'il a prié. Mais il n'a pas dit, je vais prier pendant quelques jours pour voir si c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, que je me sépare. Non, il connaissait le Seigneur. Il connaissait, il savait tout de suite ce qu'il devait faire. N'est-ce pas? Alors, certaines choses, nous savons tout de suite ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de « je vais chercher le Seigneur, la volonté du Seigneur, de voir si je peux, si je dois, n'est-ce pas, me séparer de certaines choses qui ont lieu au bureau. » Non, tout de suite, le Seigneur en vous, il vous avertit. Ça, ce n'est pas pur. Ça, ce n'est pas juste. Ah, séparez-vous. Tout de suite, vous le savez. Alors, pas besoin de d'être spirituel. Ah, nous sommes... Oui. Nous devenons spirituels, soi-disant, entre guillemets, nous devenons spirituels au mauvais moment. N'est-ce pas? Quand ça nous convient. Mais ça, quand ça ne nous convient pas, ah, nous ne sommes pas spirituels. N'est-ce pas? La spiritualité, ah, c'est un mot qui est, qu'on aime jouer avec, n'est-ce pas? C'est à notre gré, selon notre gré, pour nous convenir. Non, la vraie spiritualité, ah, c'est quoi? C'est la préparation. Nous devons nous préparer. Tout ce que nous vivons, la manière dont nous vivons notre vie chrétienne, c'est une préparation. Ça doit être une préparation. Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que je me prépare pour, n'est-ce pas, retourner au Seigneur? Pour retourner au Seigneur. Où était Daniel? Il était en captivité, n'est-ce pas? Il était en captivité. Où sommes-nous? On peut dire que nous sommes en captivité. Même dans notre vie quotidienne, si on peut envisager ça, n'est-ce pas? Dans un environnement qui ne connaît pas le Seigneur, où sommes-nous? En captivité. Et si nous avons un choix, si nous continuons à vivre comme le reste, nous sommes en captivité. Mais si, comme Daniel, nous faisons une résolution, nous résolvons, n'est-ce pas, quelque chose, nous ne sommes plus en captivité. Vous voyez, Daniel était apparemment en captivité, mais dans sa manière de vivre, il n'était pas. Il vivait différemment. Vous voyez, donc, parmi nos collègues, parmi nos voisins, et chez nous, au foyer, comment est-ce que nous vivons? Bon, souvent, et je vous ai parlé souvent de mes expériences, n'est-ce pas? Ma femme est la meilleure indication. La meilleure quoi? Le meilleur thermomètre, si on veut dire, n'est-ce pas? De ma spiritualité. Parce qu'elle me connaît. N'est-ce pas? Elle me voit dans les réunions et elle me voit à la maison. Donc, je ne peux lui rien cacher parce que tout est exposé. N'est-ce pas? Et c'est elle qui est ma meilleure ou la plus mauvaise, ça dépend de comment vous voulez, critique. N'est-ce pas? Mais ma meilleure critique. Parce que elle, n'est-ce pas, elle dit les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Ça, c'est son caractère. Et donc, même quand elle m'entend partager, n'est-ce pas, elle a souvent quelque chose à dire, n'est-ce pas, pour faire remarquer certaines choses. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais ça, c'est la réalité. C'est à ce moment-là que ma vie chrétienne, la vraie spiritualité, si vous voulez appeler ça, n'est-ce pas, la vraie spiritualité se manifeste. Quelle est ma réaction? Comment est-ce que je prends la critique? Ah oui, les maris n'aiment pas les critiques. Parce que les maris, Marie est le chef, la tête de la femme, n'est-ce pas? Alors, et voyez, donc les maris, n'est-ce pas, nous avons besoin de changer, d'être changés. Nous avons besoin d'un nouveau régime. C'est-à-dire que nous avons besoin de quoi? D'être touchés, de devenir touchables. Est-ce que ça veut dire que je vais changer? Je ne sais pas, mais on a touché ça avant-hier ou récemment. C'est même pas une question de je vais changer, mais que je suis ouvert à être touché, à ce que le Seigneur puisse me toucher à travers des instruments, n'est-ce pas? C'est toujours à travers des instruments. Et souvent à travers l'époux ou l'épouse. Ah, à travers les frères et les sœurs. Est-ce que nous sommes touchables? Est-ce que, n'est-ce pas, quand notre femme dit, n'est-ce pas, arrête de faire ça, ou tu fais ça trop, ou pourquoi est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que, n'est-ce pas, il y a quelque chose en nous qui se lève. Mais à ce moment-là, tout ce que je sais, n'est-ce pas, tout ça, où est-il? Ah, je vous dis, Oui, frère, qui aime, n'est-ce pas? Ah, tous les enseignements, tous les, n'est-ce pas? Ah, toutes les, les doctrines, les, l'exposition, le partage de la parole, n'est-ce pas? La dispensation de la parole, tout ça, n'est-ce pas? Et il faut le faire. Et on a besoin de le faire. Mais tout ça, où est-il? Quand notre femme nous dit quelque chose. C'est là, ça c'est l'épreuve. N'est-ce pas? Ça c'est là où, comme on dit, les expressions en français, n'est-ce pas? Là, en anglais, il y a une expression. Là où, n'est-ce pas, quand les pneus, n'est-ce pas, quand vous roulez, n'est-ce pas, les pneus, n'est-ce pas, frappent contre la terre, la route. Where the rubber hits the road. Quand là, n'est-ce pas, quand vous mettez, vous pouvez parler tout ce que vous voulez, comment faire rouler une voiture, mais la preuve c'est quand vous, n'est-ce pas, démarrez la voiture et vous commencez à rouler. C'est ça, la preuve. La vie chrétienne devient réelle quand elle est vécue dans une vie humaine, parmi des êtres humains. Le plus humain étant notre époux, notre épouse, notre patron, n'est-ce pas, nos voisins, ceux qui nous voient, n'est-ce pas, et les frères et les sœurs. Voyez. Mais les frères et les sœurs, on peut... On sait comment se camouflager. On se camoufler. Se camoufler. N'est-ce pas? On est assez bon, n'est-ce pas? On peut se débrouiller pour cacher certaines choses, se présenter comme un bon frère ou une bonne sœur aux autres frères et sœurs. Mais avec notre époux, notre épouse, c'est différent. N'est-ce pas? On ne peut pas prétendre. Tout est dévoilé. Voyez. Donc, ça c'est mon fardeau. Ce matin, la préparation. Il est quelle heure? Pas enfin, jouer. Presque 11h. Ok. La préparation, n'est-ce pas? Daniel, cet après-midi, nous allons continuer. Comment est-ce que Daniel a vécu sa vie? Voyez, mais. La séparation était la base. Sans cela, il n'aurait pas pu être avec les rois. Il n'aurait pas pu, Dieu n'aurait pas pu lui parler et lui donner des visions, des révélations. Nous voulons, n'est-ce pas, Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, donne-moi une vision. Donne-moi une révélation. Oui, et Dieu va dire, règle ta conduite avec ta femme. N'est-ce pas? Va, quand tu rentres à la maison aujourd'hui, ou même après la réunion, dis-lui, je m'excuse. J'ai eu tort. Ma chérie, je m'excuse. J'ai fait ça, ou j'ai parlé comme ça. Difficile de dire je m'excuse, j'ai eu tort. Mais ça c'est la base, n'est-ce pas? Ensuite, Dieu a pu donner à Daniel beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Il a même pu tourner le cœur de roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, il a servi trois rois. Nebuchadnezzar, son Belshazzar, n'est-ce pas, et Cyrus, et tous les trois, il les a servis, mais son service était de les amener à Dieu. Nous verrons ça cet après-midi, si le Seigneur nous permet il a pu tourner le cœur de Nebuchadnezzar. Il a pu confronter Belshazzar, même lui, le faire face au jugement de Dieu. Et Cyrus, Cyrus, c'est très intéressant. Comment il a été avec Cyrus, comment il devait être avec Cyrus pour que Cyrus puisse éventuellement faire le décret. Vous voyez? Mais ça commence avec la vie quotidienne. Ça commence avec une position, une détermination, une résolution, une séparation. Vous voyez? Et c'est de là que Dieu a pu révéler à Daniel tant de choses. N'est-ce pas? Surtout la révélation des 70 semaines. N'est-ce pas? Voilà. L'avenir. N'est-ce pas? Comme on peut dire l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Comment ça implique l'Église? Comment ça implique nous? Ça nous implique tout ça, n'est-ce pas? Peut-être Daniel, c'est le livre qui a le plus de révélations. Mais il y a ce petit verset, n'est-ce pas? Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Donc, ce matin, n'est-ce pas, si nous pouvons, s'il y a une chose, n'est-ce pas, que nous pouvons retenir, c'est ça. Est-ce que nous pouvons résoudre? Seigneur, je ne vais pas me souiller, je vais me séparer. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, mais je veux faire une séparation dans ma vie quotidienne. Pour que je puisse t'appartenir. Et je veux me préparer. Je veux que toute ma vie soit une préparation. Pour que tu puisses m'utiliser. Pour que je puisse être utile à toi. À ton service. Amen.